17h13, vous êtes sur Radio Radio et vous venez d'entendre Some Places de Quentin Valverde. Et tout de suite, on part sur les routes, ou plutôt dans les airs, avec l'émission Tombée du ciel, entre les livres et les aventures de Saint-Exupéry, une émission présentée par Thomas Bontemps.
Pour moi, Saint-Exupéry, c'est le petit prince.
C'est un aviateur, c'est un explorateur, c'est un aventurier.
Je me rappelle du renard, de la rose.
Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger.
Et il raconte son expérience d'aviateur par des récits poétiques.
Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Comment ? Tu es tombé du ciel ?
Tombé du ciel.
Tombé du ciel.
Son crash d'avion dans le désert.
Tombé du ciel.
On ne voit bien qu'avec le cœur.
Bienvenue dans Tombé du ciel, une émission qui nous entraîne sur les lignes de l'auteur et aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Ce soir, c'est sur les mystères de sa disparition que nous allons nous replonger. Nous sommes le 31 juillet 1944, vers les 7h du matin, lorsque Saint-Exupéry rejoint la base militaire de Borgo, située au sud de Bastia. La jeep qui le conduit traverse les villages encore endormis par la nuit. Saint-Exupéry est calme, mais son air est grave. Sa mission ? Photographier à 10 000 mètres d'altitude la zone géographique entre Grenoble et Chambéry. 8h10 du matin, il enfile sa combinaison dans le silence, ses gants, son serre-tête radio. Il ficelle un bloc-notes autour de sa jambe. 8h15, il monte dans l'avion. Dans un fracas de tonnerre, les moteurs sont mis en marche. 8h29, Saint-Exupéry, levant le bras, adresse un geste de revoir à ses camarades. L'avion roule d'abord lentement avant de s'élancer de plus en plus vite sur la piste d'envol. 8h31, il décolle. Bientôt, il n'est plus qu'un point dans le ciel. Il disparaît. La suite est restée pendant près de 60 ans une énigme. L'avion n'a que 6 heures de carburant. Si à 14h30, Saint-Exupéry n'est toujours pas rentré, son retour ne pourra plus être espéré. À 14h, les appels radio ne donnent rien. Les radars non plus, alors comme à chaque fois qu'un pilote n'est pas au rendez-vous, les visages se ferment. 14h30, aucun lightning en vue, le pilote est prisonnier perdu.
You never should have.
Les années 90 arrivent et rien, toujours rien sur la disparition de Saint-Exupéry. Il y a bien eu quelques faux espoirs, des canulars, des recherches dans la baie des Anges à Nice, dans le golfe de Gien ou au large de la Ciotat, mais non, rien de sérieux. C'est alors que le 7 septembre 1998, un chalutier de 25 mètres quitte le port de pêche de Samoty à Marseille. C'est un de ces bateaux qui racle les fonds marins pendant des heures et remonte tout ce qui s'y trouve, des rougets, des loups de mer, des dorades, mais aussi des pneus, parfois des amphores et même des mites allemandes. Jean-Claude Bianco, le capitaine du chalutier, fait cap dans les eaux poissonneuses à l'ouest de Cassis, à 2000 miles ce marin de la côte. Le vent d'ouest souffle de plus en plus. Après 3 heures ce jour-là, Jean-Claude Bianco relève les filets. Vers 12h30, le chalutier est de retour au port. Le contenu du chalut est jeté sur le pont. L'équipage trie le poisson quand l'un des pêcheurs vient trouver son capitaine. Il a trouvé une gourmette. La plaque est toute noire, seules quelques lettres sont visibles. On peut lire un prénom, Antoine. Curieux, Jean-Claude Bianco frotte un peu plus et découvre que la gourmette n'est autre que celle d'Antoine, Antoine de Saint-Exupéry. Quelle probabilité y avait-il pour que la gourmette de Saint-Exupéry, ces quelques grammes d'argent perdus au fond de la Méditerranée, se retrouvent dans les filets du chalutier de Jean-Claude Bianco et que son équipage s'en aperçoive?
Eh oh.
Quasiment nul.
Eh oh.
Il aura fallu...
Eh oh, s'il vous attendre... plaît. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Mais c'est qui, lui? Vous savez, vous, à la régie? Qui c'est? Personne ne sait. Tombé du ciel. Et puis quoi encore? Bon, et toi? Tu ne vois pas que je suis en train de faire une émission à Radio Radio?
Bah, ça fait rien, dessine-moi un mouton.
Un mouton? C'est absurde.
Pourquoi?
Parce qu'on est à la radio, et que à la radio, on parle, on ne dessine pas.
Ben, alors dessine-moi un mouton qui écoute la radio.
Farewell to the others, the final tie turning into dust. And you know, and I know, no one will call because what for? No one will call because what for? But she gave me a little room to see, a safe new space to breathe. And love comes in the small things, and learning how to ride. Toxicity, and oh my lord, how she is lovely. Whenever you need, lay it all on me. Whenever you need, lay it all on me. In the darkness there came a shining light, and I can't stay unhappy. The colors are blinding, not many words for this kind of sight. And they know there's nothing here to call out anymore. And no one will call because what for? No one will call because what for? But she gave me a little room to see, a safe new space to breathe. And love comes in the small things. I'm learning how to write in brighter ink. Gave me a little room to be. She saved me from toxicity. And oh my lord, how she is lovely. Whenever you need, lay it all on me. Whenever you need, lay it all on me.
Regarde, je t'ai dessiné une caisse, le mouton que tu veux est dedans.
C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton?
Pourquoi?
Parce que chez moi, c'est tout petit.
Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes.
Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion. C'est mon avion. Comment ? Tu es tombé du ciel ?»
Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison.
Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. Et un piquet.
L'attacher ? Mais quelle drôle d'idée.
Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où. Et il se perdra.
Mais où veux-tu qu'il aille ?
N'importe où. Droit devant lui.
Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Et droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin.
J'avais ainsi appris une chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes, comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis.
Nous étions bien le 31 juillet 1944 lorsque le commandant Antoine de Saint-Exupéry effectuait un vol de reconnaissance dans le sud de la France. Horst Tripper, un pilote allemand, alors en mission pour intercepter un avion allié au-dessus d'Annecy, aperçoit un P-38 Lightning volant vers Marseille. Il tire, la cible est touchée, droit dans l'eau. Horst Tripper ne pouvait pas savoir sur le coup qu'il venait d'abattre l'avion de Saint-Exupéry. Il ne l'a appris que plus tard. Aujourd'hui, il confie avoir plein de remords et espère encore que ce n'était pas vraiment lui.
Et alors, on l'a retrouvé, l'avion d'Antoine ?
Oui, c'est le plongeur Luc Van Rel qui a découvert l'épave par 83 mètres de fond. C'était au large de Marseille.
C'est loin, Marseille ?
C'est un peu loin, mais ce n'est qu'à quelques heures en voiture.
Alors quand est-ce qu'on va à Marseille ?
Si tu fermais les yeux, on pourrait s'imaginer faire nos bagages. On dessinerait notre itinéraire sur un bout de papier. Et puis, au volant de notre voiture, un dernier coup d'œil dans le rétro, on s'élancerait vers les paysages de notre imaginaire.
Ça y est, on est sur la route ?
Oui, on est sur la route.
Et la route, elle nous emmène directement à Marseille ?
Oui, on peut dire ça. C'est tout droit, jusqu'à la mer.
Et la mer, c'est aussi beau et grand que le désert ?
Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 2 semaines, les 16 et 17 décembre, pour un nouvel épisode de Tombée du ciel. À la régie, c'était Anna Coccolo. On remercie Matteo Calderon pour avoir prêté sa voix aux extraits de Vol de nuit. Pour la musique, c'était Little Room de Margot Christie. Blue Sky Motel de Nicolas Tourin et Surprise by Joy de Neil Beggs. Enfin, un tonnerre d'applaudissements pour Lawrence Foraille dans le rôle du Petit Prince. Dehors, il fait froid, très froid. Le vent souffle sur les grandes plaines du centre de la France. Il est 17h31. Nous sommes le 2 décembre, jour particulier. C'est l'anniversaire de Guylaine, alors joyeux anniversaire Guylaine. Depuis là-haut ou là-bas, jusqu'à vos oreilles et jusqu'à vos cœurs, je vous souhaite à bientôt sur Radio.